Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot / Radio Jeu International. Les duos, les alliances, les coalitions sont de mise ce jeudi. Toujours en direct du Club France et des Paralympiques de Paris. Parmi les duos gagnants du jour, il y a d'abord celui que j'ai le privilège de former avec Saliou Scotty Pippendiouf. Bonjour Saliou.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et je suis ravi de faire mon troisième Radio Foot avec Starsky et Hutch.
Vous l'avez réclamé, messieurs, le voici, le générique de Starsky et Hutch pour accueillir Patrick Juillard et Nabil Djellit. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Mais il y a aussi un autre larron qui aura la parole tout à l'heure, un larron prestigieux tout de même. Le nouveau Premier ministre de la France, Michel Barnier, nous devrions entendre ses premiers mots en direct. Ah. D'accord. Durant notre émission, nous rejoindrons les équipes qui sont à Matignon, l'hôtel de Matignon, pour écouter donc les premiers mots du nouveau Premier ministre français, Michel Barnier. On peut dire, en toute objectivité, qu'avec cette nomination, Emmanuel Macron fait du neuf avec de l'expérimenté, alors que le Ballon d'Or en matière de football, lui, se renouvelle. Pas de Messi ni de Ronaldo dans la liste des nommés, c'est une première depuis 2003, à l'époque, Michel Barnier avait déjà été ministre à deux reprises. Il s'apprêtait même à le devenir une troisième fois. Cette liste pour la récompense individuelle suprême vous séduit-elle par sa fraîcheur ou alors vous inquiète-t-elle à cause du nombre limité de grandes vedettes qu'elle contient? Coup d'œil également sur les premiers résultats de la phase de groupe des éliminatoires de la prochaine CAN. Ça, c'est pour Radio Foot, Radio Jeu. RJI accueillera notamment Aurélie Aubert, championne paralympique de Boccia, invitée exceptionnelle. Rendez-vous à 16h30, temps universel.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo.
Des archives qui appartiennent définitivement au passé. Ni Messi, tenant du titre et octuple récipiendaire, voilà, j'aurais pas dû le tenter celui-là, du trophée de France Football, le Ballon d'Or, ni Ronaldo, quintuple vainqueur la dernière fois en 2018. Les deux vedettes sont absentes de la liste des 30 nommés pour la récompense suprême, le trophée France Football, une première depuis 2003. Lamine Yamal n'était même pas un projet pour ses parents à l'époque. Mbappé n'avait que 5 ans, bref, c'est la fin d'une ère pour le Ballon d'Or, le plus grand trophée, celui du meilleur joueur de l'année, plus grand trophée individuel bien sûr. Excite Messi, Ronaldo, De Bruyne, Salah, Mané aussi, les favoris se nomment plutôt Vinicius, Bellingham, Rodri, Haaland, les autres figures de proue, Mbappé je le disais, Foden, Harry Kane, Ruben Dias, les futurs probables habitués, Yamal, Odegaard, Wirtz, un Africain seulement, Lookman, le Nigérian. Et puis des joueurs surprises qui, évidemment, n'ont rien volé. Xhaka, Grimaldo du Bayern, Çalhanoğlu de l'Inter, Hummels de Dortmund, Dovbik pour sa saison passée à Gérone. Ils n'ont rien volé, mais tout de même, il y a quelques années, on aurait eu du mal à imaginer des joueurs de leur pédigré figurer dans cette liste du Ballon d'Or. Patrick Juillard, est-ce que cette liste, elle est le reflet d'un vent de fraîcheur, d'une meilleure répartition, on va dire, des armes sur le continent, des armes footballistiques? Ou bien elle est le reflet d'un manque de talent, tout simplement, par rapport aux années 2000 et 2010.
Moi, je pense qu'elle est le reflet, je ne sais pas si c'est par rapport aux années 2000 et 2010, mais elle est le reflet d'une année assez creuse en très haute performance. Quand on regarde la campagne en Ligue des Champions, ce n'était pas une des plus mémorables de ces 10 dernières années. C'était peut-être même la plus médiocre. Quand on regarde l'Euro, on a constaté que beaucoup des grosses cylindrées comportait beaucoup de joueurs complètement rincés, à bout de souffle, et ça a donné des matchs souvent un petit peu poussifs, à l'exception notable de l'Espagne, qui a 5 nominés dans ses 30, ce qui est beaucoup. Et puis, effectivement, il y a aussi une relève dans la relève, disons, au niveau charismatique. Messi et Cristiano Ronaldo, c'est la fin. Ils baissent pavillon. Avant de devenir peut-être les Joe Biden du football, qui ne sont pas encore, mais en tout cas, ils baissent pavillon. Et il n'y a pas encore, dans les très jeunes talents que vous avez nommés, de joueurs aussi récemment charismatiques qu'eux. Mais ça viendra peut-être. Ça peut être William, ça peut être Yamal, ça peut être d'autres. Pour l'instant, on est un peu dans un entre-deux. Mais ça rend l'élection plus ouverte et plus riche en suspense. Parce que certaines années, on savait déjà à coup sûr, fin mai, début juin, qui aurait le ballon d'or, enfin à la fin de l'été en tout cas, à la fin des grandes compétitions, qui aurait le ballon d'or. Là, bien malin, et celui qui pourrait dire avec certitude qui aura le ballon d'or, c'est dans 2 mois, c'est en octobre.
Et puis il y a une meilleure répartition par rapport au club. Avant c'était très Liga, Barça, Real, donc Messi, Ronaldo.
Là c'est Espagne, Real, mais c'est moins marqué qu'à une époque. Effectivement.
Éventuellement ça pouvait être la première ligue avec des clubs comme Liverpool, Manchester City. Là c'est vrai que voir des clubs comme Leverkusen ou Dortmund,
Gérone, Atalanta,
le PSG a aussi Vitinha, Saliba pour Arsenal, le français. Donc on a quand même des profils qu'on ne voyait pas dans les années 2010, où on avait vraiment comme ça une liste très dense en termes de talents, de joueurs de haut niveau, et qui revenait un peu tous les ans aussi. C'est toujours les mêmes.
C'est l'avènement un peu d'une nouvelle génération, et dans une phase de transition. Et on verra si ces joueurs-là qui sont annoncés aujourd'hui, dont on tient une perception, où on se dit que ça ne vaut pas ce que ça valait par le passé, soit dans 1 ou 2 ans, ils vont consolider, ils vont être indiscutables. Et c'est des noms qui vont être ancrés dans les esprits. Soit, effectivement, il y a une baisse de niveau. On a vu l'euro, par exemple, avec un euro insipide, où seule l'Espagne a tiré son épingle du jeu dans le jeu proposé. Il n'y a pas d'individualités qui ont survolé la compétition. Il y a eu surtout, on a plus compté les déceptions, finalement, que les bonnes surprises. Les bonnes surprises, c'était Yamal et Nico Williams, ils sont dans la liste. Mais les déceptions, c'était Mbappé, c'était Cristiano Ronaldo, par exemple. Haaland n'était pas là avec la Norvège. Donc voilà, moi je pense qu'on est sur une phase de transition qui dit pas son nom. On est surtout sur la fin de la séquence Messi-Ronaldo.
Est-ce que on va revenir à des choses qu'on a peut-être connues par le passé, c'est-à-dire vraiment un vainqueur différent chaque saison, c'est-à-dire chaque saison sa vérité par rapport au Ballon d'Or, alors que depuis quelques années, et notamment avec le règne Messi-Ronaldo, c'était presque devenu quel est le meilleur joueur dans l'absolu. Forcément, c'est l'un des deux, et on voit juste lequel a fait la meilleure saison. Ouais, et il y avait quelque chose d'un peu convenu, entre guillemets.
Convenu, oui et non, parce qu'ils sont quand même maintenus à des niveaux stratosphériques en gagnant des titres.
Tous les ballons d'or ont été incontestables. Je dis pas qu'ils
lequel,
étaient...
par exemple
2010 dernier, a été contesté. Le dernier en date pour Messi a été contesté.
Van Dijk aussi.
Il y a eu des discussions, ouais. Je veux dire.
Non, mais il n'a pas non plus, quand il bat Van Dijk, il l'écrase pas, il le bat de 5 points. Et cette année-là, je crois qu'il gagne la Copa América. Je ne sais plus ce qu'il avait gagné, mais il avait gagné quelque chose. Quoi.
Il y a 2019, il avait gagné.
2010, effectivement, pour moi, c'est l'exemple. Il y a l'année autre, Ribéry.
C'était autre. Ouais, mais attendez, c'est important pour nos auditeurs.
2010, l'année Iniesta Schneider.
C'est 2021 quand il gagne.
Oui, Iniesta, Wesley Schneider doit avoir le ballon d'or.
On ne va pas refaire tout.
Non, mais ce n'est pas pour refaire, mais c'est quand même pour nuancer et apporter quand même des éléments d'explication. C'est aussi, à ce moment-là, un ballon d'or France Football FIFA, puisqu'il y avait différents collèges de votants. Les sélectionneurs, les capitaines et les journalistes. Là, c'est qu'un jury de professionnels et d'experts et de journalistes. Ça, c'est terminé. Et si on s'était arrêté seulement au jury d'experts et de journalistes, Messi n'aurait pas eu le ballon d'or. Et c'était plutôt Schneider qui l'aurait eu en 2010 et Ribéry
en 2013 par rapport à Cristiano Ronaldo. Oui, on va pas... On ne va pas refaire. Bon. Mais disons qu'il y a eu, un temps où on pouvait voir des Owen ou des Nedved ou des Mathias Sammer, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas forcément régné sur le football mondial, mais qui, le temps d'une saison, pouvaient éventuellement glaner cette compétition. On en reste là pour le Ballon d'Or ? Pas tout à fait. Parlons un petit peu quand même de l'Africain présent, Lookman du Nigeria et de l'Atalanta Bergame. Il y en avait un autre qui s'y voyait déjà, pas en haut de l'affiche, mais au moins dans l'affiche.
Presque en haut de l'affiche. C'est Serhou Guirassy, l'international guinéen de Borussia Dortmund, anciennement Stuttgart, qui a réagi hier sur le réseau social X assez énigmatique, un peu à la Benzema, juste avec des émoticônes, des emojis. Il a tweeté un emoji qui pleure de rire, un autre qui se tient la tête et l'autre qui met ses deux mains en exergue et qui est dubitatif.
Donc, moi, je peux le comprendre un petit peu. Alors, bon, pour revenir rapidement sur Lookman, sa présence est due à son rôle absolument déterminant dans la victoire de l'Atalanta en C3 avec un triplé en finale, ce qui n'arrive pas quand même tous les ans, quelle que soit la Coupe d'Europe. Et puis, au fait que c'était un petit peu le joueur frisson du Nigeria à la CAN. Si on doit retenir un joueur individuellement de cette CAN, c'est Lookman. C'est lui qui a fait le plus de différence, qui a été le plus impactant pour son équipe, plus d'ailleurs qu'Osimhen.
Là aussi, il y a une transition. Si Salah Mané, qui étaient les deux têtes d'affiche.
Salah, moi, j'aurais pas été scandalisé qu'il soit encore nommé, parce que malgré une saison moyenne, il fait toujours le boulot statistiquement et c'est toujours le leader. Et puis Guirassy, effectivement, on peut comprendre sa déception, parce que si on voit Dubvik, qui est nommé parce qu'il est meilleur buteur de Liga, il a 24 buts, Dubvik. Guirassy, il n'est pas meilleur buteur de Bundesliga, il a 28 buts, c'est plus. Et puis, il a fait des matchs quand même absolument renversants en termes de stats.
Il y a un joueur du championnat allemand aussi qu'on connaît très bien en France, c'est Luis Openda, qui a répondu à ce commentaire avec trois petits points en étant d'accord avec lui.
Donc il est
soutenu dans la corporation.
C'est aussi devenu un peu convenu de voir les joueurs réagir avec... En plus, cette mode des émoticônes, des émojis un peu énigmatiques.
Il ne devait pas être très loin des 30, Guirassy, mais c'est le jeu. Souvent, vous êtes au numéro 31, 32, 33.
Après, il n'a pas de stats en équipe nationale.
On ne peut pas nommer tous les joueurs.
À la CAN, il n'a rien fait.
Il n'a pas joué tous les
matchs. S'il avait été bon à la CAN, ça aurait été probablement différent.
Il
n'a pas gagné de titre non plus avec Stuttgart. C'était la belle surprise du championnat d'Allemagne. Alors, ce qu'il fait, c'est évidemment.
Il termine deuxième. À l'échelle de Stuttgart, t'es pas loin d'une, pas loin d'un titre.
Donc à mon avis, ça a dû jouer à pas grand chose. Qu'il y soit pas, c'est, enfin dans les deux cas, c'est pas scandaleux quoi. En fait.
Non.
Bon, voilà pour cette liste. On a bien compris vos analyses. Pas de scandale, une phase de transition. La dernière info dont on a besoin, salut Luc.
La cérémonie qui se déroule le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet. On aura le Ballon d'Or masculin, bien sûr, et le Ballon d'Or féminin.
Et à noter quand même que dans le trophée Yashin des gardiens, il y a un Africain important à signaler quand même. Le gardien de l'Afrique du Sud, Williams, qui est présent parmi les 10 meilleurs gardiens de la planète.
Ron Williams, qui avait fait des exploits, notamment dans les séries de tirs au but à la dernière CAN. On en stoppe en 4, le gardien des Mamelodi Sundowns, également vainqueur.
Il faut qu'on passe à autre chose, j'entendais, et on ne peut pas tout rajouter sur ces listes de nommés. Pour le Ballon d'Or, on passe à la CAN, mais pas celle passée, celle à venir. La phase principale des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique a déjà débuté, avec le coup d'envoi des premiers matchs de la phase de groupe de ces éliminatoires dès hier. Et ça continue aujourd'hui. Des matchs en cours à l'heure où on se parle, salut Diouf.
Absolument. On a le Congo qui mène 1-0 face au Soudan du Sud.
Congo-Brazzaville.
Congo-Brazzaville, oui, pardon. 22e minute. On a la Guinée-Bissau qui mène face à l'Eswatini. 1-0. Le Ghana contre l'Angola, 0-0. Ainsi que la République centrafricaine, donc la Centrafrique contre le Lesotho qui mène 1-0.
C'est pas mal ça pour le Congo et la Centrafrique, oui, ça fait de bons débuts.
La Centrafrique qui depuis longtemps tourne autour d'une qualification, est souvent 3e sur 4, ça joue souvent pas à grand chose. J'espère aussi pour le travail de Raoul Savoie à la tête de cette équipe avec des moyens limités.
Mais oui, il y a de la stabilité au moins là.
D'engagement, voilà, on lui a donné la stabilité, les résultats commencent à arriver avec régularité. Et il faut souligner que c'est une équipe qui ne joue plus à domicile depuis des années et des années et qui, malgré ça, arrive à tirer son épingle du jeu. Donc, chapeau à la Centrafrique.
Il y a eu un match déjà aujourd'hui.
Un match terminé.
Terminé avant notre émission.
Un peu plus tôt, oui. C'est le Malawi qui recevait le Burundi et qui s'est incliné sur sa pelouse 3-2.
Voilà, les Hirondelles du Burundi qui ont déjà participé à une CAN. Donc, peut-être...
Ouais. Qui est Malawi aussi, hein, qui n'avait pas capitalisé sur cette qualification en 2019, mais... qui sont tout de même une nation plutôt émergente, donc peut-être une nouvelle qualif en téléchargement.
Et la journée de jeudi en matière de football et d'éliminatoire, elle n'est pas terminée, celle du Diouf. Il me semble qu'un pays, une équipe chère à un certain Nabil Djellit devrait fouler la pelouse.
Absolument. Un pays où on dit Taïa Djazaïj, donc l'Algérie contre la Guinée équatoriale, l'équipe facile, de l'homme aux cheveux roses. Ouais, rappelez-vous Nabil,
Salvador,
le fameux.
Il est arrivé à l'aéroport, tout le monde était en panique.
La Guinée équatoriale qui est meilleure que l'Algérie sur les précédentes CAN, et ça s'est vérifié sur des confrontations directes,
c'est
même.
Pas dur non plus.
Ouais, c'est pas très compliqué.
Vous en pensez quoi de cette Algérie new look, si je puis dire, avec quand même du neuf, avec du vieux, Riyad Mahrez qui.
Oui, c'est pas Michel Barnier, mais c'est Mahrez du côté de l'Algérie.
c'est pas mal. À son prime, comme disent les jeunes, c'était pas mal.
C'était pas mal. Non, mais l'Algérie, c'est une sélection qui se cherche avec un nouveau sélectionneur qui essaye de trouver un groupe et un logiciel de jeu. Je dirais que je suis globalement dans l'expectative. Voilà.
Dans l'expectative.
Je demande à voir.
Et c'est pas la seule nation nord-africaine qui fait du neuf avec du vieux, puisque la Tunisie, qui joue ce soir, a rappelé un certain Faouzi Benzarti sur le banc.
Un fidèle
ça
soldat
doit,
qui revient régulièrement.
Son quatrième passage sur le banc à différentes époques. Donc voilà, c'est ouais. Là encore, on n'a pas de pétrole et on n'a pas forcément beaucoup d'idées. On espère pour les Tunisiens que ça fonctionne.
Ouais, bon, ils vont faire le boulot comme d'habitude, 1-0, sans cadrer une frappe, un penalty voilà. À la 78e et puis voilà.
On sent le voisin jaloux.
Ah pas jaloux, je connais le mode d'emploi, c'est tout.
Et il y aura d'autres matchs aussi ce soir.
Et ah oui, et puis dont un
Tunisie, RDC-Guinée. Madagascar aussi.
Voilà.
Tunisie-Madagascar. Non, RDC-Guinée, c'est demain.
Pardon. La dernière affiche du soir, effectivement, Tunisie-Madagascar.
Et ce groupe, d'ailleurs, qui a la particularité d'avoir en son sein les deux voisins insulaires, les Comores et Madagascar. Et les Comores qui ont joué hier.
Exactement, la passe décisive.
Voilà.
Comores-Gambie.
Un but partout.
Et ça s'est joué en fin de première mi-temps, un coup franc victorieux de Mchangama, comme il en a mis déjà beaucoup dans sa carrière, et une égalisation de Moussa Barrow. Et par la suite, il y a eu beaucoup de. Enfin, c'était assez disputé. La Gambie a poussé. Et finalement, c'est resté à un partout. Avec le début pour les Comores de.
Ouarmed Omari
en défense centrale, qui, à mon avis, va être un élément stabilisateur et
qui a changé
important.
Ouais. Bah, c'est le seul. Il est passé de Rennes à Lyon. Ils ont récupéré Omari. Ils avaient récupéré Mizienne Maolida, notamment. Et celui qu'ils veulent absolument récupérer, mais c'est compliqué, ils n'ont toujours pas réussi, c'est Wesley Saïd, Lançois.
Mais qui est aussi d'origine, qui est trinationale, qui est aussi d'origine mauricienne.
Peut-être une nouvelle belle aventure pour les Comores sur leur
lancée. Ça travaille bien avec Stefano Cousine.
C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Si je peux me permettre, Hugo, il y a eu trois autres matchs hier, c'était le Soudan contre le Niger, le Soudan qui a battu le Niger 1-0, la Libye contre le Rwanda 1-partout, et la Tanzanie et l'Éthiopie, ça fait 0-0.
D'accord. Voilà, c'est pas mal, c'est même très complet. Merci, Saliou Diouf. Radio Foot fait une petite pause et on se retrouve de l'autre côté de la musique pour Radio Jeu avec une invitée exceptionnelle, une médaillée d'or, la première médaillée d'or française en boccia.